bonjour et les amis du soir, bien le bonsoir. Il s'agit de l'émission Onda Jazz qui se passe sur Onda País. Les semaines du jazz, c'est avec vous, c'est pour vous et c'est pour nous un plaisir de partager une émission. Aujourd'hui, on va vous parler de folie. De folie, c'est normal puisqu'on vous parle de jazz et le jazz en premier, c'est une façon d'être et c'est une folie. Et vous savez, dans les Hauts-Cantons, nous avons plein de musiciens, nous avons plein d'artistes. Et cet été, il est venu, il nous a rejoint malgré le temps chaud, le temps lourd. On a envie d'être au frais, non. On a surtout envie de partager des émotions, partager des musiques, partager des passions. On en a souvent discuté. Par téléphone. Il est musicien, il est batteur, il joue avec la nature. Également, on en parlera, ça va peut-être vous interloquer, mais il joue aussi avec les pierres. Mais pas que, il est également écrivain, on n'en a pas parlé hors antenne, mais on en parlera. Il s'appelle Mathieu Beck. Salut Mathieu.
Salut.
Merci d'avoir accepté cette invitation dans les studios de Onda País. On s'était déjà rencontré, Mathieu, lors d'une émission de Onda País avec Sarah Fernandez pour parler des Hauts-Cantons et en même temps de musique, concert. Et aujourd'hui, on va parler de ta passion, on va parler de notre passion, on va parler de jazz. On a une heure pour échanger ensemble. Et il y a beaucoup de choses à faire, donc je serai obligé de filtrer parce que je l'ai dit très brièvement, mais en même temps, tu es écrivain.
Oui, enfin, écrivain, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être publié, d'être édité pour mon premier recueil de poésie. Écrivain, faut pas exagérer, ça fait au sens que...
Quand on écrit, on n'est pas écrivain?
Ouais, si, mais je suis poète sous la douche, quoi. C'est-à-dire que,
Écrivain, ok.
ouais. C'est-à-dire, là, j'entame mon deuxième recueil de poésie que j'espère pouvoir faire éditer aussi. D'ailleurs, je salue mon premier éditeur qui s'appelle Ubik Art Édition à Montpellier, qui m'a fait confiance. Voilà, j'ai envoyé le manuscrit et en fait, ça faisait des années que les gens me disaient « Mais pourquoi tu le fais pas, quoi ? Pourquoi tu envoies pas ça à un éditeur ?» Et je me disais « Ouais, pourquoi faire, quoi ?» Et en fait, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose un peu comme un effet un peu schizophrène de voir son nom sur un bouquin. C'est presque plus intime que de faire un disque, en fait.
Hein. D'accord.
Ouais, c'est très, très, très étrange comme sensation.
On parlera pas beaucoup du livre parce que sinon on aura plus le temps de parler du reste. Le livre s'appelle quel est le titre?
Alors il s'appelle À l'ombre des sources. À l'ombre des sources, parce qu'en fait j'ai fait ça un petit peu au bord de la rivière chez moi. C'est un endroit, c'est un Éden. C'est vraiment un petit paradis. Et donc j'ai trouvé ça marrant de. Voilà, d'intégrer un petit peu ce décor naturel dans le titre.
Onda Jazz sur Onda País, une émission préparée par Thierry Rioux toutes les semaines sur le jazz. Chica.
Mathieu Beck, tu es avec nous pendant un petit moment, le temps de parler de musique. Alors, je ne sais pas par où commencer, par quelle histoire on va commencer avec Mathieu Beck, avec les pierres, avec la musique. Ton entrée en musique, c'était à quel âge?
En fait, j'avais 8 ans. J'ai eu ma première batterie à 8 ans, une petite Tama. Parce que j'avais vu un concert d'un copain de mon père jouer. C'était un gaucher. Et j'avais trouvé ça assez fascinant. Et puis j'ai essayé de l'imiter pendant le concert en tapant sur des trucs. J'étais tout petit et déjà j'étais fou de ça. Et j'ai essayé de reproduire avec tout, avec des batteries de cuisine, des couteaux, des fourchettes, etc.
Les pauvres parents.
Et les pauvres parents, c'est clair. Et je leur ai pris la tête, mais d'une force incroyable. Et juste après, vers l'âge de vraiment 13 ans, parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils m'ont aidé pour une Tama, une Rockstar Tama. Ça a été mon premier, et je crois que là j'étais le mec le plus fier du monde, le plus heureux, quoi. Voilà, et ça de 8 ans à 48 ans, voilà, maintenant aujourd'hui, Ça fait 40 ans que la batterie m'accompagne.
Mais il y a eu tout un chemin, et il y a, avec la nature aussi, là nous sommes dans les Hauts-Cantons, où c'est vrai qu'on a des paysages qui sont plus que sympas, ouais. Et en même temps, il y a cette attirance pour les pierres. Alors la première fois que j'ai vu ton nom, Mathieu Beck, qui vient avec des cailloux, qui joue avec... alors c'est vulgaire ce que je dis, parce que tu as dit, c'est pas des cailloux, il y a plein de choses dedans. Effectivement, il y a des sons, il y a des vibrations différentes en fonction des pierres. Tu peux nous en dire plus?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle des phonolithes. Des phonolithes, donc phono, son, et lithos, la pierre. Et bah après, je ne vous dis pas où je les prends, parce que c'est ma petite
parce que c'est vraiment particulier, c'est vraiment n'importe quoi.
C'est des pierres très spéciales, en fait, qui sont... qui ont cette résonance par rapport à une sorte de procédé chimique qui s'est fait avec la lave, etc. Et donc en fait ces pierres là sont trouvables, hein, sont trouvables un peu partout en France, dans des endroits assez spécifiques. Alors ben voilà, je prends mon sac à dos, une bouteille d'eau, des bonnes chaussures, avec mon accordeur sur mon téléphone.
D'accord.
Et je vais en montagne chercher mes sons.
Et tu vas en ramener combien?
Et donc des fois c'est assez lourd, du coup j'ai carrément un petit pic pour les tailler, etc. Et je vais en ramener quelque chose comme une vingtaine. C'est assez lourd. Et après je les retaille, je retravaille le son, je les réaccorde, etc. Et ça me fait comme des espèces de... voilà, de xylophone en bois, mais là je fais des lithophones, pardon. Voilà, des lithophones.
Alors, tu me dis si je me trompe, mais moi, dans l'évolution de Mathieu Beck, j'ai l'image d'une personne qui tapait au début sur des casseroles. Après, on achète une batterie et, en fin de compte, qui joue la batterie, mais qui se sauve un petit peu pour voir le son des pierres et puis qui crée un autre univers. Et dernièrement, qui se repenche sur la batterie, qui rejoue la batterie dans un style un peu free, mais après qui s'ouvre complètement sur différentes musiques et sur différents musiciens.
Oui, j'ai eu énormément de collaborations différentes dans ma vie avec des artistes qui venaient d'univers totalement différents. Ça passe du noise à l'expérimental. Avec,
et du rock,
etc. En passant par des gens qui sont nés vraiment du jazz. Et donc voilà, moi c'est vrai que depuis très longtemps j'écoute du jazz sans pouvoir m'exprimer de cette manière. Et là j'ai craqué parce que je peux plus faire autrement. C'est vraiment ma manière de m'exprimer maintenant. Et c'est vrai que des fois pour m'évader d'une certaine technique du jazz qui demande beaucoup de travail. Moi, je travaille 4 heures par jour sur ma ride, donc c'est des choses qui sont assez ascétiques, on va dire. J'ai envie un petit peu de me détendre et d'aller justement dans la nature, taper sur du bois, taper dans de l'eau, parce que je fais aussi du water sound, etc. Donc, et taper sur des pierres. Et donc, si tu veux, c'est un peu ma manière de décompresser, quoi. Parce qu'autour de chez nous, il y a énormément de sons qui ne demande juste qu'à être exprimé, quoi. Voilà, le son est partout, hein, comme disait
exactement.
John Cage.
Exactement.
Il disait que le son était partout, surtout sur la 5e avenue, aux heures de pointe, comme il disait lui-même.
C'est bien de s'alimenter de musique, de vibrations, de son et de batterie, pour ce qui te concerne, vu que c'est quand même la fréquence que tu préfères le plus, c'est jouer la batterie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je propose simplement d'écouter un extrait de ton album. Il y a combien d'albums qui existent?
Oh, une dizaine, dont 3 ou 4, il me semble, qui sont en sortie physique sur des labels. Celui-là, Free Tao, est sorti avec le formidable saxophoniste et multi-instrumentiste Marius Welker, qui est comme moi fou de Coltrane. C'est un vrai oiseau quand il joue. Et là, c'est sorti sur le label bordelais Mazzetto Square, dirigé par le talentueux Charles Bourrette. Voilà.
Mm-hmm. Un extrait de l'album de Mathieu Beck qui est avec nous aujourd'hui pour parler de jazz, pour parler de passion. Mathieu, c'est quoi le jazz? Ah, une colle, hein. Je ne t'avais pas donné le cahier des questions compliquées.
Le jazz, pour moi, c'est une musique qui est habitée. Voilà, c'est une musique qui a de l'âme et qui vient d'une grande souffrance. On en parle souvent, de l'esclavage, du blues, des choses comme ça. Mais en fait, je me reconnais très peu dans le new jazz. Je vais pas me faire des amis, mais y a un côté comme ça, très. On en parlait tout à l'heure, de techniciens, de gens qui sortent des grandes écoles, etc. Moi, j'aime aussi les gens qui viennent de la rue. J'aime bien aussi les petits clubs que j'ai pu découvrir à Boston. De jazz où les gens jouent pour leurs amis, etc.
Pour une âme et pas pour le nom.
Ouais, voilà. Et moi, je fais pas ça pour le fric, sinon je ferais du David Guetta. Et voilà, je fais ça pour parce que c'est une musique qui me dépasse, parce que c'est une musique qui me challenge tous les jours, parce que c'est une musique qui me transcende. Et puis surtout, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Quand j'entends Alabama de Coltrane, j'ai envie de pleurer. J'ai des frissons. Le jazz, pour moi, c'est une ouverture à l'autre. C'est une musique empathique. C'est une musique qui exprime tous les sentiments humains, toute la richesse humaine. Et je crois que c'est pour moi la musique classique qui à la base, bon, bien sûr, vient des Noirs aux États-Unis, mais pas que. C'est pour
il y a
moi,
des transformations.
Il y a des transformations. Mais pour moi, c'est vraiment la musique classique afro-américaine. Et je parle, j'assume ce que je dis, vraiment, c'est pour moi, c'est de la musique classique, quoi. Voilà. Et des gens comme Don Cherry sont des artistes, pour moi, de musique contemporaine, quoi. Voilà. Donc, clairement, Coltrane a absolument donné tous les panels possibles d'expression de cette musique. Je ne crois pas qu'il ait omis d'en visiter une de toutes ces dimensions. Et voilà, moi je suis juste quelqu'un qui écoute des disques depuis tout gamin, et à chaque fois ça me met les poils, quoi. Ça me donne envie de pleurer et de pleurer de joie, quoi. Et c'est quelque chose qui est en moi maintenant, et rien que d'en parler ça m'émeut, voilà.
Voilà une des définitions du jazz. Le jazz, de toute façon, c'est difficile. Chacun a sa propre définition. Il en existe tellement, mais c'est vrai qu'on est dans le vrai, on est dans le pur avec le jazz, et on est dans le partage. Le jazz, on est obligé de l'aimer parce qu'il n'y a pas un rythme qui n'existe pas en jazz. Il n'y a pas une sonorité qui n'existe pas. Il n'y a pas un instrument qui ne se joue pas en jazz. Donc moi, j'ai vu des personnes qui me disent « Oh non, j'aime pas le jazz, c'est trop free. » Mais il n'y a pas que le jazz free. Vous avez aussi l'afro, vous avez la béguine, vous avez du jazz de tous les côtés. Il y en a qui disent « Non, moi, c'est l'accordéon. » Mais vous avez du jazz avec accordéon. Ce n'est pas les exemples qui manquent. Et c'est ce qu'a dit très bien d'ailleurs Mathieu juste avant sur le jazz, sur le partage. Il y a une richesse qui est monstrueuse et qu'on ferait bien d'enseigner un peu plus dans le monde de l'écoute, et qu'on apprenne à écouter et pas à entendre. Parce que souvent, on entend, mais on n'écoute pas. Ça demande, comme toute la culture, la musique classique, ça demande un petit effort pour voir qu'est-ce que veut dire l'artiste et que veut dire le musicien, pour rentrer un peu dans son univers. Et c'est peut-être pour ça que tu aimes bien les duos quand même, Mathieu.
Oui, j'aime bien les duos. Et parce que quelque part, c'est une rencontre totale. C'est-à-dire que voilà. comme je fais beaucoup de choses improvisées, il est très difficile d'être focus, d'être concentré sur 4, 5 improvisateurs en même temps, parce que ça demande une concentration dingue. Et c'est vrai que plus j'improvise et plus je réduis. Et puis je me canalise sur un focus de, comment dire, d'un musicien, d'un jeu, de deux jeux maximum, parce que ça va très vite, l'impro, ça va très vite, et il faut tout de suite, tu as deux secondes même pas pour faire quelque chose de cohérent. Et c'est un peu des visualisations, un peu comme les grands sportifs, tu sais, t'as ce côté
concentration,
voilà. Et donc si tu veux, il faut beaucoup méditer, il faut beaucoup se concentrer, faut être dans l'instant, jamais après, jamais avant, voilà, c'est de la musique de l'impromptu, de l'instant. Et donc le truc, c'est que plus tu vas décliner avec beaucoup de musiciens et de sons qui t'arrivent, d'informations que tu dois gérer en temps réel, plus c'est compliqué, quoi. Alors, donc les duos, c'est mieux.
Alors oui, je suis d'accord avec toi, hein, pour dire les duos, c'est, je dirais pas mieux, c'est peut-être plus facile à la base,
oui.
pour comprendre ce que veut dire l'autre, pour entrer dans la danse. Mais te connaissant un petit peu par rapport à ton parcours et ton entrée dans le jazz, je parie que prochainement tu auras envie de rajouter un troisième élément pour voir comment qu'il va en répondre à l'autre. Et l'ouverture, parce que ton ouverture sur le jazz a changé aussi.
Ouais, en fait, j'ai envie de monter un trio, quoi. J'ai envie de monter un trio piano, contrebasse, batterie. Voilà. C'est mon rêve depuis le temps que je fais du jazz. Je trouve que c'est magnifique. Je suis fan de Monk. J'aime bien des choses comme Brad Meldow aussi, qui sont.
Ça, c'est deux univers
bien
différents.
Ouais, c'est différent, mais voilà, dans le sens que j'ai beaucoup aimé, Est, les choses comme ça.
Trio,
voilà,
ouais.
Voilà, Est Band. Trio. Le pauvre, hein, paix à son âme. Et il était plongeur comme moi, lui. Il était plongeur, il s'est noyé. Et donc voilà, je voudrais monter ça. Je voudrais monter un trio qui tienne la route, de gens fidèles, confirmés et qui ont confiance en moi. Et ça, c'est parfois un peu difficile dans ma région, parce que il y a des musiciens, mais j'ai pas encore trouvé la formule, quoi.
Ouais. En premier, c'est des questions de feeling.
Ouais, c'est ça.
parler de jazz, on parle d'émotion, on parle de vibration, et forcément on écoute Brad Meldo, un extrait, une musique qu'il a fait pour un film Mon chien stupide.
Onda Jazz sur Onda País, une émission préparée par Thierry Rioux toutes les semaines sur le jazz. Chica.
Du jazz et de tous les styles, on aime en parler. Et pour ça, je suis avec Mathieu Beck et on coupe entre les deux morceaux pour papoter. Et puis, il faut faire attention à l'heure parce que sinon, je crois qu'on discuterait pendant des heures.
Ouais, je suis encore avec toi là.
Bah, ça tombe bien parce qu'on est ensemble.
Ça aussi. Fait deux fois. Ça fait deux fois qu'on est ensemble. Et ça me ravit. J'ai jamais envie de couper. Ouais.
Et ben, on coupe pas. On parle de passion. Alors, pour revenir un petit peu sur ton album quand même, je dirais qu'il y a deux choses. Et à ceux qui écoutent l'album, il faut faire attention parce qu'il y a ce que l'on entend en audio, mais toi tu es plus en même temps, tu me disais tout à l'heure, en musicien live. Il faut voir, il faut écouter la musique et il faut la voir aussi parce que les émotions et le musicien qui joue, c'est aussi une part d'expression.
Ouais, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent ouais, tu fais plein de grimaces quand tu joues. Et en fait, c'est vrai que je vis le truc, c'est un peu comme une sorte de... Bon, c'est très galvaudé comme terme, mais c'est vrai que c'est un peu comme une sorte de mini-trance. Et du coup l'expressivité de ce qu'on tente de faire passer, voilà, l'expression, si tu veux, c'est important, c'est... Voilà, moi je suis vraiment un musicien live, j'ai toujours eu beaucoup de mal en studio. Bon, je fais le job hein, en studio, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt... Je m'éclate vraiment en concert, avec l'interaction du public. Quoi. Et quand je sens que les gens sont à l'écoute, là j'en fais des caisses, quoi. J'adore ça. J'ai un côté cabotin, mais ça, je l'assume pleinement.
Non, c'est ce qu'on appelle aussi le feeling. Il arrive un moment où on voit quand le public est avec toi ou pas avec toi. Et s'il est avec toi, il se passe autre chose.
Ouais, ouais. Il y a des fois où ça fonctionne pas, mais vraiment, il m'est arrivé deux, trois fois où vraiment, je sentais pas rien. Enfin,
comme tous les musiciens.
Ouais, ni l'ambiance, ni le public, ni quoi que ce soit. Et bon, ben, j'ai joué ma partie, mais on va dire que c'était pas mes meilleures perfs. Ouais.
Ce qu'on appelle le feeling, c'est la faute à qui quand ça marche pas? C'est la faute du public, c'est la faute des ondes. Toi qui es un peu sur les ondes là, qu'est-ce que t'en penses? T'as pas une...
Non, c'est moi qui suis pas dedans.
Oui, mais il y a pas que toi aussi. Et pourquoi t'es pas dedans? Parce que le public donne pas quelque chose.
Ouais, non, il y a un vrai échange. Ouais.
C'est, dans cette conversation, c'est pas juste sur Mathieu Beck, ça existe pour tous les musiciens.
Hein. Bien sûr. Oui, oui.
J'ai vu des gros concerts de musiciens qui étaient très en haut, qui cartonnait
ouais.
Et qui faisait deux concerts de deux jours suivis. Le premier jour, il y avait un silence absolu, tout le monde écoutait et ils avaient conquis le public. Le lendemain, ils faisaient exactement le même concert, mais c'était pas le même public et ça n'accrochait pas. Il y avait des blancs et il y avait une onde qui ne passait pas. Il y a une histoire de feeling.
Onda País.
Onda País, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Non, c'est du feeling en pur. Le jazz, c'est du feeling. C'est beaucoup de feeling. Alors, beaucoup de gens me parlent de technique. Moi, Milford Graves, que j'adore, qui est un super batteur, qui était un des meilleurs batteurs de free jazz aux États-Unis. Pauvre type, il est mort il y a deux ans. J'étais très triste parce que c'était un peu mon mentor. Et ce gars-là, il disait un truc qui était très drôle. Il disait ton cœur, il n'est pas métronomique. Ton cœur, en fait, alors le cœur bat de manière régulière, plus ou moins, mais il le fait pas tout le temps. Et ma façon de battre, c'est un peu pareil.
Mais c'est cool, oui.
Ouais.
Alors, il ne faut pas nier, il faut, et c'est ce qu'on disait aussi hors antenne, c'est que la technique est très importante, bah, oui. Mais elle doit être au service de la musique.
Disons qu'il faut s'en débarrasser, il faut l'acquérir. Moi, je l'ai acquise, puisque j'ai quand même fait le conservatoire, etc. D'ailleurs, je remercie beaucoup mes profs, mes maîtres, là, Cyril Satch et Jérôme Dufour, du conservatoire de Sauvian. Qui est rattaché au Conservatoire Régional de Béziers, sur lequel je suis des cours depuis 4-5 ans, que je les salue. Et c'est grâce à eux aussi que je me suis ouvert un peu plus dans mon jeu. Et simplement pour dire que c'est bien de la technique, comme disait Picasso, il vaut mieux l'acquérir pour mieux s'en débarrasser. Voilà.
Exactement.
Et pour pouvoir commencer vraiment à rencontrer quelqu'un, humainement, artistiquement, en oubliant la technique, en la gardant pour soi, et en pouvant la récupérer si jamais on se casse un peu trop la figure. C'est-à-dire que moi, j'ai mes tournes. Si je vois qu'à un moment donné, je vais trop loin dans le free, hop, je me rattrape avec des tournes très techniques. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir flirter avec les limites de la non-technique, quoi. Et toujours avoir cette technique en spare, en stock, pour voir jusqu'à où on peut fixer le curseur.
I don't know what I'm going to do.
Chanteuse que l'on aime beaucoup ici avec Onda Jazz, elle s'appelle Leila Martial. Mathieu, on parlait tout à l'heure de l'improvisation, on a parlé du free et puis on parlait de musiciens que tu aimes beaucoup, tu me parlais de Esbjørn Trio, tu me parlais de Brad Meldo. Et si on parlait un peu d'improvisation, des improvisateurs qui te marquent, que tu aimes bien?
Alors oui, ça c'est des gens, Meldo et Est, c'est des gens que j'écoute. C'est pas forcément, tu l'auras deviné, ce que je joue.
Bien sûr, oui, là n'empêche pas l'autre.
Ouais, là n'empêche pas toi. Donc je suis quand même assez ouvert sur du new jazz et sur des choses très très belles qui se font maintenant. Après, c'est vrai que quand même mon ADN à la base c'est quand même l'improvisation et ce qui le gars qui m'a vraiment révélé avec qui j'ai joué beaucoup c'était Michel Doneda. Avec qui j'ai enregistré sur le magnifique label britannique FMR Records. Et lui, quand il avait joué avec Zorn, avec Elvin Jones et des gens comme ça, il était déjà dans quelque chose d'autre, quoi. Il était déjà dans une musique de l'instant et c'est vraiment des grands, grands pionniers, des grands précurseurs. Et donc, quand j'ai joué, enregistré avec lui, c'était un peu comme des masterclass et j'en prenais plein la poire parce que en fait, on n'a pas parlé de musique ensemble. On a parlé d'improvisation. On a parlé de façon d'être à la musique. Et donc, Doneda, Michel, il m'a donné des clés de compréhension sur l'écoute, sur ce qui pouvait passer, sur ce qui était nécessaire d'avoir comme ouverture. Et voilà, bon, les grands improvisateurs qui m'ont marqué, bien sûr, c'est lui. Ça a été une grande rencontre dans ma vie. Il y a eu Xavier Charles, le grand clarinettiste Xavier Charles, d'accord, qui travaille d'ailleurs maintenant pour la BO de la pièce de théâtre d'Alain Damasio, Les Furtifs. Il a travaillé avec les grands Otomo Yoshihide, le pape de la noise au Japon. Voilà, donc c'est des gens que j'ai rencontrés comme ça qui m'ont donné des clés de compréhension. Des gens comme Pascal Battu. Après, là ce que j'aime dans l'improvisation, voilà, c'est Milford Graves, le batteur Milford Graves. C'est la claque que j'ai prise quand j'ai découvert Anthony Braxton. C'est une grande dame de la contrebasse qui s'appelle Joël Léandre.
Oui.
Ouais, dont mon ami Christian Pouget a fait le dernier film documentaire sur elle, etc. Donc c'est quand même des... Pour moi, ça m'a révélé quelque chose. Voilà, Don Cherry, voilà, Steve Lacy, voilà, c'est Ornette Coleman, bien sûr. Et donc, ces grands improvisateurs, évidemment, ça m'a donné l'assurance, la confiance en moi de me dire, ok, Sonny Murray peut faire absolument n'importe quoi derrière sa batterie, et ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne. Et je me disais, bien sûr. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens et faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça ce que je veux dire. C'est que cette liberté-là, tu ne peux l'avoir que si tu as la technique et que tu en, et en même temps que tu en, t'en débarrasses à la fois. Et ça, tu peux le faire que si tu as un peu travaillé. Voilà. Et je ne dis pas que je n'ai pas travaillé, j'ai travaillé beaucoup.
On ne travaille jamais assez.
Voilà. J'ai travaillé beaucoup, mais jamais assez. Et quand je vois l'effort que ça demande, la concentration que ça demande, l'improvisation, moi, des fois, ça me fatigue, quoi. Je fais 45 minutes d'impro, je suis vidé.
C'est normal.
Alors que je peux faire 2 heures de jazz avec des standards, je vais avoir la pêche, quoi. Tu vois, c'est vraiment
ça dépend ce qu'on cuisine.
Ça dépend ce qu'on cuisine.
Ça dépend s'il faut aller en profondeur, ça dépend si on ressort toutes les émotions, ça dépend comment on voyage.
Ouais, ouais, non, ça peut être assez dense, quoi. L'impro, ça peut être assez dense, ouais.
De savoir, c'est alors une petite, parce qu'on dit l'impro, tout le monde parle de l'impro, et l'improvisation, c'est quoi ? C'est pas vraiment, c'est d'aller chercher qui on est, qu'est-ce que l'on veut donner, comment fonctionne l'impro chez toi ? Parce que tout le monde a sa façon de fonctionner.
Ben, c'est déjà l'environnement qui m'inspire, et généralement, c'est mon instrument dans le minimalisme du set de percussion que je vais avoir qui va me donner déjà des réponses. C'est-à-dire que généralement l'impro, elle part du son même de ma batterie, elle part de la texture même de mon tambour, et je pars de mon instrument pour aller trouver des idées. Je fais pas du haut vers le bas, je fais du bas vers le haut, quoi. Et généralement j'attends que mes cymbales entrent un peu en résonance. Et c'est elles qui vont me donner la façon que je vais avoir de chanter ma rythmique. Parce que des fois, on ne m'entend pas, mais des fois, j'aurais tendance à chanter pendant que je joue. Alors, voilà. Voilà, c'est plutôt quelque chose de ctonien, quoi. Ça vient plutôt de la terre, quoi. Et donc, du coup, c'est des vibrations qui viennent dans le temps, dans le présent. Mais si t'es pas focus sur le présent, tu loupes l'impro, quoi.
Il faut savoir débrancher pour décoller.
Il faut surtout te jeter.
Faut s'oublier.
Ouais, faut se jeter dans le vide et pas avoir peur de se casser la gueule. Sauf que quand tu fais ça devant une centaine de personnes, des fois tu.
Faut pas ouvrir les yeux.
Ouais, voilà, tu peux avoir le trac. Ouais. Voilà.
Don Cherry pour Onda País. Thank you. Et dans le partage de la musique avec Mathieu Beck, on était bien sûr en train de parler des émotions, en train de parler de l'improvisation et comment on se sentait dans l'improvisation. Et sur une des plus belles improvisations, j'ai envie de rebondir sur un album que tu connais bien sûr certainement, c'est Köln Concert.
Ah, oh. Magnifique,
Keith Jarrett.
Keith Jarrett.
Et qui, je ne sais pas si tu connais cette histoire merveilleuse, parce que c'est un album d'improvisation,
oui,
qui a été fait. Et pour la petite histoire, Keith Jarrett avait demandé un gros piano, bien sûr, hein, c'était un Bose Underfer, un spécial. Il voulait en fin de compte le piano qui est le piano sur lequel jouait Oscar Peterson, qui a plus de touches que les autres, un peu plus, qui est monstrueux. Et ça ne s'est pas bien passé, ça n'a pas bien été compris là-bas. Ils lui ont ramené un autre piano qui était quand même de qualité inférieure. C'était pas le gros piano monstrueux. Les pédales, en plus, elles étaient pas terribles. Les aigus, elles étaient un peu faibles. Et puis les basses, c'était moyen. Et Keith Jarrett, bien sûr, quand on connaît le personnage, bien sûr, il voulait annuler le concert qui aurait dû se faire annuler. Il ne voulait pas jouer. Et il y a une personne, je me souviens plus son nom, qui a vraiment insisté pour qu'il joue en lui disant qu'il pouvait improviser. Ils ont testé ils ont pas voulu changer. Ils pouvaient pas changer de piano. Et il a accepté de jouer. Et toi, tu me parlais tout à l'heure de concerts où en improvisation, tu fais tourner doucement autour du gong pour dire que ça, quelque chose va commencer ou le spectacle va commencer. Et je ne sais pas si de mémoire, tu as en tête le premier morceau qu'on entend de Keith Jarrett sur l'improvisation. Ça commence par... Et tu sais ce que sont ces quatre notes ?
Non.
Ces quatre notes, c'est le retentissement. Ce sont les mêmes notes que du retentissement du théâtre où il y avait Keith Jarrett pour dire le spectacle va commencer. Pour dire aux gens, il faut rentrer, vous allez avoir le concert, il va commencer. Tu avais...
Non, mais bon,
Et Keith Jarrett a commencé son concert justement sur ces célèbres quatre notes qu'on ne connaît que par là-dessus. Et le concert a été enregistré, il n'aurait pas dû être enregistré. Et pour dire aujourd'hui, même aujourd'hui, hein, c'est un des albums piano solo qui est le plus vendu dans le monde.
J'adore ça, j'adore cet album.
Ouais. Keith Jarrett, Köln Concert.
J'adore cet album et tu viens de tout synthétiser. En gros, voilà, l'impro, c'est la musique de l'instant. Donc il a récupéré quelque chose de l'instant, donc ce fameux jingle d'entrée. Et il l'a intégré. Il faut pouvoir intégrer une porte qui claque parce que le gars se casse de ton concert. Il faut pouvoir l'intégrer ça dans ton jeu. Et surtout, comme tu disais si bien, ce qui est important, c'est les silences. C'est les silences. C'est aussi ne pas avoir peur, comme tu disais, du silence. Parce que c'est ça qui fait des belles musiques, des grandes musiques. Ennio Morricone, là, c'est... il y a des silences, il y a des sustains, il y a des notes qui disparaissent, qui se fanent. Et voilà, c'est ça la musique. Ouais.
C'était l'émission Onda Jazz aujourd'hui. Merci à mon ami Mathieu Beck d'être venu m'avoir rejoint pour discuter musique, parler improvisation, parler surtout passion, parce que c'est il faut vivre de ses passions de toute façon, même si les passions ne suffisent pas toujours à nous faire vivre entièrement, c'est l'essence même de notre oxygène.
Exactement, ouais. Non, c'est ce qui est important, c'est de pouvoir être transporter ça avec soi partout. Donc on n'est jamais tout à fait pauvre. Voilà.
Même il y a rien de plus riche que la musique. N'hésitez pas à partager, vivez de musique et enivrez-vous de musique. Si vous voulez en savoir plus sur Mathieu Beck, est-ce que tu as un site ?
Oui, absolument. Ben, il suffit de taper Mathieu Beck sur Google. Et puis, vous avez, je pense, sur le deuxième ou troisième lien Google, sur le PageRank, vous avez Matt Beck, M-A-T-B-E-C, .simdif, S-I-M-D-I-F, .com. mattbeck.simdif.com.
Merci, l'émission se termine, on se retrouve la semaine prochaine. Mathieu, merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
À très bientôt à tous. Ciao.